Nous restons dans l'écoute de la parole de Dieu et nous lisons le 15e chapitre de la première aux Corinthiens. Dans l'heure qui a précédé, quelques versets de ce chapitre nous ont déjà été rappelés, mais nous serons tous heureux de les relire ensemble. Premier épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis tout d'abord ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux vivent encore, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas le nom d'apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, oh non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il n'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui sont morts dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang. En tête le Christ, comme prémisse, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « Tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux ? Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous exposer au péril ? Chaque jour je meurs, aussi vrai frère que vous êtes ma fierté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, que m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dégrisez-vous comme il sied et ne péchez pas, car il en est parmi vous qui ignorent tout de Dieu, je le dis à votre honte. Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu, du blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes. Mais autre est la chair des hommes, autre la chair du bétail, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une étoile. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. On sème de l'ignominie, il ressuscite de la gloire. On sème de la faiblesse, il ressuscite de la force. On sème un corps psychique, il ressuscite un corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam est un esprit qui donne la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est le psychique, puis le spirituel. Le premier homme, issu du sol, est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Tel le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons revêtu l'image du terrestre, il nous faut revêtir aussi l'image du céleste. Je l'affirme, frère, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Le chapitre que nous venons de lire est le chapitre obligé si l'on veut récapituler l'enseignement biblique sur la résurrection. Heureuse incrédulité des négateurs de Corinthe qui nous a valu un traitement in extenso par l'apôtre. Comme vous n'en avez pas fait d'étude préalable ce matin, je vais moins chercher qu'hier la synthèse thématique et davantage m'attacher aux moments successifs de l'instruction, du plaidoyer, pourrait-on dire, de l'apôtre Paul. Je vais seulement les prendre à l'envers. Ce sera la timide originalité de ma présentation. Je commencerai plutôt par la fin en remontant le fil du texte. Il me semble que les enjeux nous apparaîtront mieux et que les vieux routiers de la lecture de la Bible qu'il y a parmi nous pourront trouver l'occasion d'une appréhension rajeunie ou rafraîchie. C'est en évoquant l'un des enjeux, et non des moindres, que Paul conclut au tout dernier verset, aux dernières lignes, « Votre labeur ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je crois que nous avons le droit de conclure de cette conclusion que sans l'assurance de la résurrection, la peine que nous prenons, le mot « labeur » est un mot qui évoque ici la fatigue, le travail pénible, serait vide de sens. Il n'est pas besoin d'être un profond penseur pour discerner que l'absurdité d'une mort qui aurait le dernier mot pourrirait par contagion inévitable toute la marche qui y mène. Si la vie se jette dans la mort comme les fleuves dans la mer, à quoi bon? Si peu théardien que je sois, nul ne me soupçonnera, je pense, après ce que j'ai écrit, j'estime pénétrante l'une des vues de Teilhard de Chardin. Son idée de la grève de la vie. sans l'assurance d'une consolidation éternelle, d'un gain irréversible par-delà la mort, estime-t-il, l'humanité en viendra tôt ou tard à faire grève. De telle sorte que le grand mouvement en avant, qu'il considère comme celui de toute la cosmogénèse, je ne reprends pas à mon compte tous les éléments de sa vision, ce grand mouvement avortera sur lui-même. Grève de la vie, si ça ne rime à rien. La preuve la plus éloquente peut-être de l'illogisme des hommes, c'est qu'ils continuent en si grand nombre à s'affairer péniblement, fiévreusement, alors qu'ils n'attendent pourtant rien au bout. L'apôtre, lui, nous affirme « Votre labeur ne sera pas vain dans le Seigneur, parce qu'il peut proclamer une victoire, parce qu'il peut nous promettre un triomphe déjà assuré. » C'est ce qu'il fait dans la partie que je considère en premier lieu, et qui se trouve donc à la fin, puisque j'adopte l'ordre d'une remontée du texte, dans les versets 55 à 57. Il célèbre la victoire qui nous attend à l'aide d'une image magnifique. La mort a été engloutie, avalée, pourrait-on traduire aussi, par la victoire. Il emprunte en fait cette image à un passage prophétique de l'Ancien Testament qui est l'un des plus beaux du livre d'Ésaïe, écrit encore plus tôt que le fameux passage d'Ézéchiel lu tout à l'heure, au chapitre 25 d'Ésaïe. Nous avons la promesse du banquet que l'Éternel prépare, et il y est promis que l'Éternel enlèvera le suaire qui couvre tous les peuples, qu'il fera disparaître la mort pour toujours. Et au chapitre suivant, il est précisé, tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront comme une rosée lumineuse. Nous avons là une promesse de résurrection dont Paul maintenant reprend les termes pour annoncer ce qui est devenu pleinement assuré par le Christ. La mort a été engloutie dans la victoire. Et puis il ajoute un autre passage prophétique. Les questions du livre d'Osée au chapitre 13 et au verset 14. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Il s'agit dans le livre d'Osée de l'expression du vœu de Dieu. C'est ce que Dieu voudrait réaliser pour son peuple. Triompher de cette mort qui le mine. Mais dans le livre d'Osée, Dieu est obligé de dire « La repentance se dérobe à mes yeux. » Et ainsi, je ne peux pas encore réaliser ce salut que je voudrais vous donner. Ces deux textes prophétiques réunis par l'apôtre Paul reviennent, d'après Moltmann, avec une fréquence obsédante, obsessionnelle, dans le monumental ouvrage du grand penseur néo-marxiste Ernst Bloch. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à observer. Il a été comme fasciné par cette formule. Et je pense que l'on peut, comme en marge de notre développement, glisser cette réflexion. Est-ce que ce n'est pas justement la mort qui dément l'utopie de la synthèse en laquelle la dialectique, ultimement, devrait se résoudre, l'utopie de la réconciliation parfaite des contraires, de l'humanisation totale de la nature et de la naturalisation totale de l'homme? La mort. La mort, et je ne pense pas qu'un marxiste ait osé attendre de la résolution de la lutte des classes, la victoire sur la mort aussi. La mort, c'est bien la preuve que la synthèse n'est pas atteinte, que l'antagonisme subsiste et que l'homme est frustré de l'accomplissement de son destin. L'apôtre insiste dans le commentaire qu'il fait sur l'enlèvement de l'aiguillon. Le texte d'Osée parle de l'aiguillon de la mort enlevé, et l'apôtre précise « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » Que dire de ce petit commentaire de l'apôtre, très très bref? Pourquoi souligne-t-il cet enlèvement de l'aiguillon? Je pense que c'est pour tenir compte de l'espèce de sursis donné à la mort dans le temps présent. Dans le temps présent, pour les croyants, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a l'assurance de la résurrection finale, mais quel est le statut de la mort? C'est au fond le statut du frelon à qui vous auriez réussi à arracher son aiguillon sans le supprimer totalement et qui volerait autour de vous. L'image n'est pas de moi d'ailleurs. Il ferait encore peur. Un frelon, vous auriez beau savoir que l'aiguillon, il n'y est plus. Vous préféreriez sans doute que le frelon n'approche pas trop, mais il serait pourtant radicalement inoffensif. Il en est ainsi de la mort pour le croyant dans ce temps présent. Son aiguillon a été enlevé. Et si cela reste une réalité ennemie, l'apôtre Paul peut dire quand même à son propos dans l'épître aux Philippiens, la mort est un gain, la mort j'y gagne, ce n'est plus la réalité affreuse qui maintient dans la servitude de la peur, comme l'a décrit l'épître aux Hébreux au chapitre 2. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, inimitié avec Dieu, condamnation devant lui qui fait de la mort la réalité radicalement redoutable. Et la puissance du péché, c'est la loi. Que veut dire cette addition de l'apôtre Paul? Je crois qu'elle signifie que c'est l'exigence de justice qui fait que le péché subsiste comme une barrière infranchissable entre le Dieu saint et les pécheurs. C'est la loi de Dieu en laquelle il a engagé son honneur, son crédit, la loi qui doit être maintenue si Dieu doit être véridique. C'est cette loi qui fait que le péché nous aliène de Dieu. Et pour triompher du péché, de l'aiguillon de la mort, il fallait que la loi puisse être satisfaite, que la justice puisse être entièrement satisfaite, que Dieu puisse être juste tout en acquittant les coupables. Cela n'a été possible que d'une manière, la manière que nous avons vu expliquer dans le texte d'hier, dans la seconde aux Corinthiens au chapitre 5, parce que Dieu a fait devenir péché pour nous, celui qui n'avait pas connu le péché, qu'il n'avait pas commis jamais, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous avons dans cette formule, ici, la puissance du péché c'est la loi, mais la victoire nous vient par Jésus-Christ, au fond un résumé de la doctrine du passage que nous considérions hier. Si l'apôtre peut exulter avec si retentissante fanfare dans ce verset, c'est, me semble-t-il, que la victoire sur la mort n'est pas un simple retour à la situation antérieure, au moment même de l'agonie. Ce n'est pas simplement la suppression de la menace qui pèse sur chaque homme comme la certitude la plus certaine, là à mourir. Dans le passage qui précède, et c'est celui que je considère maintenant, donc celui qui va des versets 35 à 54, l'apôtre Paul met en valeur la mutation qualitative qu'implique la résurrection promise. Pas seulement donc l'élimination de la menace de la mort au sens courant, mais un changement qu'il essaie de comparer à divers autres qui nous sont communs. Il répond à la question « Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps ?» C'est là la question qui introduit ce passage. Et sa réponse va souligner essentiellement la liberté de Dieu qui peut nous donner un corps d'une autre sorte, une chair d'un autre type que notre corps et notre chair présentes. Le corps nouveau est un corps semblable à celui de Jésus-Christ ressuscité, celui qui nous est décrit dans les apparitions des 40 jours à partir de la Pâque, et c'est un corps qui n'est pas simplement l'extension, la continuation du corps présent. C'est pour cela que les vivants au moment du retour du Seigneur, leur cas est spécifiquement envisagé par l'apôtre Paul au verset 51, les vivants sont aussi transformés. Ils n'auront pas, eux, à passer par la mort, mais ils ne vont pas se contenter de prolonger la vie qu'ils ont menée sur la terre. Ils seront, en un clin d'œil, nous dit l'apôtre, transformés, changés. Et ils recevront, sans passer par l'épreuve de la mort, ce corps nouveau, cette corporalité glorieuse qui est promise. Il y a diverses sortes de chair parmi les créatures, diverses sortes de corps dans tout l'univers de Dieu. Alors ne soyons pas surpris si c'est un corps différent qui nous est promis. Voilà, essentiellement, vous l'avez, je pense, bien saisi lorsque j'ai fait la lecture tout à l'heure, l'argumentation de l'apôtre Paul dans la première partie de cette section. Il me semble remarquable que Paul ne se contente pas, à propos du corps infirme qui sera remplacé par le corps plein de force, il ne se contente pas de remonter jusqu'à la chute, jusqu'à Genèse 3. Il considère bien sûr le corps tel que nous le traînons et qu'il nous traîne aujourd'hui, c'est-à-dire affecté par les conséquences du péché. Mais il ne se contente pas d'évoquer ces traits-là, il remonte encore plus haut, il remonte jusqu'à Genèse 2, jusqu'à la création antérieurement à la chute de ce corps qui a été affecté par les conséquences de la révolte humaine. Et il contraste le corps à venir avec le corps de la première création. Les deux adjectifs caractéristiques à cet égard sont les deux adjectifs psychiques et spirituels. Vous avez dans cette traduction une reproduction tout à fait exacte de l'original. Psychique, c'est psychikos. Lorsque les traductions choisissent le terme animal en français, elles ont raison étymologiquement, puisque animal vient de anima, qui est l'équivalent latin de psyché en grec. Mais je crois qu'elle crée un malentendu, parce que l'usage devenu courant du mot animal en français ne rappelle plus du tout la présence de l'âme. Et je pense donc préférable de faire comme la Bible de Jérusalem que j'ai utilisée dans ma lecture, de transcrire le terme de l'original, qui est le mot psychique. Nous avons ici un contraste entre psyché, l'âme, et pneuma, l'esprit. Alors, sans traiter toute la question, nous n'avons pas le temps, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, je crois qu'il faut que je dise quelques mots du sens de ces termes, de leur utilisation dans l'écriture. Il ne me semble pas correct, et je pourrais vraiment le montrer, je crois, de prendre esprit et âme pour des mots qui désigneraient des parties différentes de l'individu humain dans l'écriture. Il n'y a qu'un seul passage pratiquement, mais qui n'est pas probant à cet égard, que l'on pourrait citer en faveur de l'idée qu'esprit et âme sont deux parties différentes, et il y en a une multitude qui montre qu'en fait les termes peuvent être employés pour le même être intérieur unifié de l'homme. Nous avons des tas de passages où âme et esprit sont utilisés dans le fameux parallélisme de la poésie biblique. Nous avons des textes où les mêmes verbes évoquant les mêmes activités, les mêmes mouvements intérieurs sont utilisés soit avec âme, soit avec esprit. D'ailleurs, ce sont des images très proches qui sont à l'origine de ces deux termes. Dans chaque cas, en hébreu aussi bien d'ailleurs qu'en grec, il s'agit du souffle. Plutôt le souffle respiratoire pour âme, plutôt le souffle volontaire qui porte la parole pour esprit, mais il s'agit du souffle, et souffle vital dans les deux cas. Le texte d'Ézéchiel 37, lu tout à l'heure, d'ailleurs évoque le caractère vital, vitalisant du souffle. Donc il est tout à fait arbitraire, artificiel, parce qu'on emploie une mauvaise méthode, simplement on isole un passage et puis on fait porter sur lui toute une théorie. Il est tout à fait arbitraire de penser qu'il s'agisse de deux parties différentes de l'individu humain. Les champs de sens de ces deux termes se chevauchent pour une très très grande part. Mais il y a en même temps quand même des nuances qui font une différence. Il y a des connotations qui s'attachent soit au terme d'âme, soit au terme d'esprit. Et c'est en jouant de ces connotations que l'apôtre Paul ici peut faire une différence entre psychique et spirituel. Le mot âme évoque plutôt la vie qui subsiste et se renouvelle dans le sujet. Il s'agit de la vie dans ses caractéristiques, on pourrait dire, naturelles de lien à la terre, au monde. Alors que le mot esprit évoquera davantage, pas exclusivement, n'est-ce pas, mais davantage, la vie de relation interpersonnelle. Il y a une nuance dynamique qui s'y attache, et le mot esprit sera souvent choisi pour la relation avec Dieu. Le mot âme peut être aussi utilisé comme cela dans le, à propos du grand commandement, du premier et du grand commandement. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme et de toute ta pensée. Il s'agit de la relation à Dieu dans son caractère le plus essentiel. Et le mot esprit n'est pas employé, c'est le mot âme et le mot pensée. Mais il reste que si l'on compare les usages, le mot esprit a davantage la connotation de la relation avec Dieu. Et on pourrait peut-être, en schématisant un peu, je reconnais, dire que c'est le même type de différence qu'il y a entre âme et esprit qu'entre vie et vivification. Vous avez remarqué que l'apôtre utilise la formule de Genèse 2, le premier homme devint une âme vivante, et puis qu'il forge une expression parallèle pour le Christ. Esprit vivifiant, esprit qui donne la vie. Il s'agit d'une vie qui non seulement est là, mais qui se répand, qui se diffuse avec ce caractère dynamique que très souvent le mot esprit retient. Au fond, entre âme et esprit, je dirais, il y a la différence entre vivant et vivifiant. À propos du corps, alors, que veut dire l'usage de ces deux termes psychiques et spirituels? Je crois que l'apôtre veut marquer que le corps qui a été donné à Adam et que nous avons reçu, nous qui sommes en Adam, est un corps qui est calculé pour une existence terrestre, pour ses relations de l'existence naturelle. Alors que le corps qui nous attend, le corps spirituel, est un corps qui sera parfaitement adapté à la vie de relation avec Dieu, une vie de communication avec le céleste. Ne me demandez pas de décrire plus en détail cette différence, mais je crois que je peux affirmer que la différence de connotation, c'est celle-là, entre les deux mots psychique et spirituel. Et nous avons la correspondance, d'ailleurs, dans le texte. Le premier homme est terrestre, terrien, tiré du sol. Le deuxième homme, nous est-il dit, est céleste. Le deuxième homme vient du ciel, et c'est un corps, en quelque sorte, céleste, qui est promis. Nous avons ici la vision des deux hommes, chefs des deux humanités, dont je vous ai déjà parlé hier. Vous la voyez là très très bien en place. Vous avez le premier Adam, dont l'humanité est en quelque sorte l'humanité de définition pour tous ceux qui descendent de lui. Et puis vous avez le nouvel Adam, Jésus-Christ, l'Adam dernier, dont l'humanité de ressuscité, est aussi l'humanité de définition pour tous ceux qui sont de lui, qui lui appartiennent, qui constituent le corps dont il est la tête. Et de même que les caractères de l'humanité adamique nous viennent par la naissance, les qualités de l'humanité christique nous sont données par cette nouvelle naissance qui fait que nous sommes en Christ, selon l'expression de 2 Corinthiens 5. Alors le deuxième homme est du ciel, et nous lui serons rendus semblables. Ça ne veut pas dire que nous serons divinisés, transformés en des dieux, en autre chose qu'en des hommes, que nous devenions des surhumains. La Bible, je crois, nulle part ne nous encourage dans la voie de cette pensée. Mais cela veut dire qu'il y a un surcroît de privilèges extraordinaires, parce que le chef de l'humanité nouvelle est en même temps Dieu le Fils, sans mélange des natures, en même temps Dieu le Fils. Celui qui est le nouvel Adam, auquel nous serons conformés en tant qu'il est l'homme nouveau, est Dieu même. De telle sorte que le lien entre la divinité et l'humanité, ce lien de communion, d'alliance, est aussi serré que possible. Il est impossible de concevoir un lien plus étroit qui ne volatilise pas l'humanité. On ne peut pas concevoir de plus grand privilège pour l'homme que celui d'être associé, en appartenant à l'humanité de Jésus-Christ, à la vie de la Trinité Sainte elle-même. Nous avons dans les deux derniers chapitres de la Bible, dans l'Apocalypse, je crois, bien des indications dans le langage symbolique de cet écrit, de ce plus qui nous vient du fait que l'homme nouveau, qui prend la tête de l'humanité nouvelle, ne se contente pas de restaurer ce qui était au commencement, mais étant Dieu, nous élève plus qu'à un privilège supérieur. L'homme nouveau est du ciel, il fait l'union la plus étroite possible entre l'homme et Dieu. Il est comme une échelle de Jacob permanente qui fait communiquer ciel et terre. Vous vous rappelez cette échelle de Jacob sur laquelle les anges montent et descendent, cette échelle de la communication? Jésus a rappelé certainement l'échelle de Jacob dans sa parole à Nathanaël, lorsqu'il lui a parlé des anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est la véritable échelle de Jacob qui fait la communication entre ciel et terre. Et la fin de l'Apocalypse nous en va encore au-delà. Il semble que toute séparation entre le ciel et la terre soit désormais abolie. Il y a encore la dualité, nouveaux cieux et nouvelle terre. Mais la Jérusalem céleste descend sur la terre. Et pour cette Jérusalem céleste, il est dit que le temple sera Dieu lui-même et l'agneau. Dieu lui-même et le Christ. Voilà le temple de cette nouvelle cité. Et il est dit qu'il n'y aura plus ni soleil ni lune pour donner la lumière, mais que la gloire de Dieu et l'agneau lui-même constitueront le luminaire de cette cité. Vous voyez la pensée de la communication entière, désormais, entre le céleste et le terrestre. Voilà ce qui est impliqué dans la promesse d'un corps spirituel et non plus psychique dans la résurrection. Je comprends, je l'avoue, le felix culpa de la liturgie romaine. Bienheureuse faute, la faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Alors, pris strictement, cette expression « heureuse faute » que j'ai un peu imitée dans mon introduction tout à l'heure, cette expression soulève l'objection. Elle ne se trouve pas dans la Bible, ce qui doit nous rendre très prudents, et je crois qu'il est dangereux de suggérer une justification après coup du mal, dire « ah, nous comprenons pourquoi Dieu l'a permis, etc. » Non, justement la Bible ne poursuit pas dans cette direction. Mais à titre de licence poétique ou de licence liturgique, je dirais que je comprends bien ce felix culpa, bienheureuse faute, pour dire l'émerveillement du retournement par Dieu. C'est comme pour le crime des frères de Joseph. Le mal que nous avons commis, Dieu l'a tourné dans son dessein en bien pour accroître encore et démesurément la richesse de la faveur qu'il nous montre, des dons de son amour pour nous. Il a fait du péché lui-même l'occasion d'un bienfait dont on ne peut pas concevoir de plus grand. Voilà les réflexions que cette partie du texte de la première aux Corinthiens me suggère. Et je remarque que c'est déjà la pensée du rapport entre le chef de l'humanité et ceux qui lui appartiennent, ceux qui tiennent à lui, que l'on trouve dans le développement précédent des versets 20 à 34. Les versets 20 à 34 souligne la solidarité entre la résurrection du chef et celle qui est promise à tous ceux qui font partie de son humanité. Versets 21 et 22 en particulier, « La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même en effet que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. » La solidarité, comme pour Adam, de même pour le nouvel Adam, le deuxième homme qui est céleste. Le tous ici me semble assez évidemment, dans ce contexte, devoir se comprendre de ceux qui composent l'humanité. Tous ceux qui sont en Christ, puisqu'il s'agit de Christ comme chef. Et il faut être en Christ pour en bénéficier, selon la clause que nous avons vue dans la seconde aux Corinthiens. Et Paul emploie pour faire saisir le rapport du chef et des membres une nouvelle image dans ce passage. C'est l'image des prémices. Au verset 20, il dit « Le Christ est ressuscité des morts, prémice de ceux qui se sont endormis ». Ceux qui se sont endormis, ça veut dire les chrétiens décédés. C'était un euphémisme régulier dans le Nouveau Testament, qui avait une valeur théologique. Ce n'est pas simplement un euphémisme comme ceux que nous employons pour amortir les connotations émotives, mais c'était une manière de dire que la mort avait perdu